800 000 morts, c'est le chiffre avancé par la commission indépendante d'enquête mandatée par les Nations Unies. Nous allons donc revenir aujourd'hui sur le génocide des Tutsis au Rwanda à partir du 6 avril 1994. Il y a donc 30 ans tout juste, l'avion du président Hutu Habyarimana s'écrase à son arrivée à Kigali. Ce crash allait être le signal du début des massacres. Les partisans d'un régime Hutu vacillant allaient massacrer leurs voisins Tutsis. 30 ans plus tard, François Brébant a rencontré 4 témoins, 4 Tutsis pourchassés qui ont réussi à échapper aux assassins et qui vont vous raconter leurs histoires et leurs blessures.
C'est une chanson très 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 profonde dans l'émotion qui a été créée en 94, vraiment quand tout était encore le chaos total. La chanson s'appelle Essemba Zende, ça veut dire à qui dois-je demander des explications. Aïe, c'est vraiment une expression chez nous de tristesse profonde. Ndirene, que dois-je faire? À qui dois-je demander des explications? Parce que quelqu'un à qui je devrais poser la question n'est plus vivant, n'est plus là.
Mais qui n'est plus là pour expliquer? Le papa, la sœur, les frères, les tantes et les cousins, et puis les amis avec qui on a grandi, les collègues, tous engloutis au printemps 1994, effacés du monde, comme s'ils n'avaient jamais existé. 800 000 personnes vont disparaître dans le génocide contre les Tutsis. 4 témoins ont accepté de nous raconter ce qu'ils ont vécu. Ces 4 témoins vivent tous en Belgique. Ils y ont recommencé leur vie bouleversée il y a 30 ans, dans la catastrophe nationale rwandaise. Pourchassés, affamés, ils ont échappé à la mort, par chance ou juste par hasard. Ils ont vu leurs proches se faire assassiner, à la machette le plus souvent. Dans beaucoup de cas, les tueurs étaient des voisins, des gens qu'ils fréquentaient à l'école, dans les champs, à l'église. Nous sommes retournés sur les lieux de cette rage meurtrière avec l'une de nos témoins, 13 ans à l'époque.
Je m'appelle Donatil Karurenzi. Bientôt, à Noël, je fêterai mes 43 ans. Je suis Tutsi. Il m'arrive de dormir et de me lever avec des sueurs. Oui, c'est dur de passer tout ton sommeil en te cachant ou en voyant des tueurs. Et je sais que beaucoup de rescapés ressentent ça.
À gauche, là, c'est la plantation des bananiers. Et alors, tu as les petites, les jeunes pousses de haricots.
Vite, c'est ici, c'est à Makuru. Il avait l'âge de mon grand frère. Voilà, il a 49 ans. C'était un Hutu qui habite toujours au village. Mais on ne parle plus de ça, hein. Plus des Hutus, des Tutsis, des ethnies. Maintenant, tout le monde est Rwandais. D'ici, on voit la petite maison de mon voisin qui m'a cachée. C'est là. Là.
L'horreur éclate au Rwanda le 6 avril 1994. Ce soir-là, l'avion du président Hutu Habyarimana est abattu. C'est le point de départ du massacre des Tutsis.
Madame, Monsieur, bonsoir. Un titre ce soir efface les autres. Les présidents du Rwanda et du Burundi seraient morts après que leur avion se soit écrasé à l'aéroport de Kigali.
Je m'appelle Tassien Dolimana Mihetwa. Je suis Tutsi du Rwanda. J'ai 64 ans. J'ai fêté mon anniversaire le 21 janvier. Je suis à la maison le 6 avril. C'est la nuit. C'était le week-end de Pâques. Donc nous sommes là. Moi-même, mon épouse, notre fiston, ma belle-sœur Claire, son mari Christophe, mon petit frère Cyprien. Les gens nous téléphonent, hein. On nous dit qu'on commence déjà à tuer.
Au Rwanda, depuis 4 ans, c'est la guerre. Une armée rebelle, considérée comme Tutsi, attaque le régime Hutu. À partir du 6 avril, la population civile Tutsi, considérée comme complice, devient le gibier des milices Hutus.
Et le lendemain matin, très tôt matin, j'ai un coup de fil, le pays est déjà embrasé. Nos propres membres de famille sont en train d'être tués.
Ceux qui se font massacrer, ce sont les Tutsis. Et les Hutus qui prennent le risque de les protéger. Les Hutus et les Tutsis, les agriculteurs et les éleveurs de vaches, vous en avez tous entendu parler. Mais les uns et les autres sont-ils si différents que cela? Les Hutus petits et costauds, les Tutsis grands et minces, c'est en partie une caricature. Promenez-vous au marché de Kimironko à Kigali. Regardez autour de vous. Essayez de déterminer qui est Hutu et qui est Tutsi. Vous n'allez pas y arriver. La marchande de fruits est grande, mais elle n'est pas mince. Le réparateur de machines à coudre est mince, mais il est petit. Tassien nous le confirme, classer les gens d'après leur physique, ça marche mal.
Il y a beaucoup de cas qu'on se trompe. À tel point que pendant le génocide, quelqu'un pouvait détruire sa carte d'identité, et sillonner tout le Rwanda en faisant croire qu'il est Hutu, alors que c'est un Tutsi. Tous les Rwandais ont une même culture, une même histoire.
Et de plus, tout le monde parle la même langue. À l'origine de cette haine des uns contre les autres, il y a une méprise du colonisateur. L'administration belge a voulu voir des peuples différents. Elle s'est appuyée sur les Tutsis pour diriger le pays.
La colonisation belge et l'église catholique, ils estimaient que les Tutsis sont faits pour diriger. Ah non, c'est une monstruosité. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à déstructurer la société rwandaise.
À l'indépendance, c'est un régime Hutu qui se met en place. Les Tutsis sont discriminés. Tassien s'en souvient très bien.
On nous faisait chanter des insanités pour imprégner la haine. Donc il y a une qui disait « qui a défriché la forêt ?» C'est le Hutu. Et le Tutsi de regarder dédaigneusement. Que cherchait-il encore aujourd'hui? Ishamba ryatemwe nande, ryatemwe na gahutu, gatutsa muhanza maso, nono sarabaziki. Ça, c'est le refrain que j'ai retenu. Et les Tutsi, nous étions appelés Inyenzi Kafar. On était malheureux quand on commençait à vous traiter de Kafar. Ça voulait dire que peut-être des choses se préparent. Peut-être qu'ils vont se débarrasser des cafards.
Et c'est bien ce qui va arriver dès le 6 avril 1994. Le président est mort, et pour ce qui reste du régime, les Tutsis sont des complices. Chez Brigitte, le père comprend très vite que ça va chauffer et que sa famille est en danger.
Je m'appelle Brigitte Kanyemera, j'ai 47 ans. Oui, je suis Tutsi. Je suis chez moi, avec mes frères et sœurs. Ma maman est absente de la maison parce qu'elle était partie voir une de ses sœurs. Et donc on apprend à la radio que le président est décédé, que son avion a été abattu. On voit tout de suite dans le regard de mon papa que c'est plus que ça. On va comprendre que quelque chose de grave est en train de se faire parce qu'on commence à avoir les gens qui fouillent Kigali à pied. Kigali, il est à 40 km de ma région. On habitait tout près d'une route principale. Il y a beaucoup de gens qui marchent, qui sont fatigués, qui ont faim, qui ont soif, qui passent à la maison demander à boire. Donc nous, on commence à se demander qu'est-ce qui se passe. Et il y en a qui racontent que les gens tuent les autres, qu'ils tuent les Tutsis. Ils font des tris entre Tutsis et Hutu. Ils les tuent et qu'ils ont survécu des massacres. C'était impensable qu'il y a des gens qui sont en train de prendre les machettes et de couper les autres. Sur les barrières, il y a des cadavres entassés. Mon papa fait une sorte de réunion familiale. Il nous demande de nous habiller correctement, de ne plus porter les pyjamas la nuit.
Parce qu'en cas d'alerte, si les voisins déboulent la nuit pour tuer, il faut pouvoir s'enfuir dans la minute. Mais le papa de Brigitte, si lucide, si prudent, sera l'une des premières victimes des massacres. Sa fille aînée est coincée à Kigali. Il prend tous les risques pour la faire rentrer à la maison.
On ne sait pas comment il est décédé. Il est parti de la maison avec l'intention de trouver un moyen pour faire venir ma grande sœur Chantal qui était à Kigali. Il est parti, il n'est plus revenu, ma sœur non plus. Oui, c'est ça l'histoire.
À Kigali, Tassien voit arriver un groupe de soldats du régime. Ils cherchent les Tutsis pour leur faire un mauvais sort.
Ils prennent position comme s'ils étaient vraiment au front. Deux militaires entrent dans la maison, un qui me retient. Alors lui, il me dit, mais toi, tu es Tutsi, hein? Je te connais. Oui, tu es Tassien de chez Kagabo. Ton oncle, c'est mon enseignant, j'ai étudié avec ton petit frère. Je ne sais pas vous dire dans quel état j'étais mort, c'était fini. Alors il me dit, et ta femme? Le garçon, la voit marcher, elle dit, mais écoutez, c'est quand même une Tutsi aussi. Je dis, malheureusement, j'ai épousé une Tutsi. Je savais qu'on va mourir en fait, parce qu'on avait tué maison par maison les voisins. Donc moi, je savais que c'est fini. Mais curieusement, les deux militaires qui sont entrés à l'intérieur avec mon beau-frère, soi-disant pour fuir la maison, le chef lui dit, allez, on part. Et alors, après qu'ils soient partis, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Dans la chambre, en dessous du lit, il y avait une enveloppe, une grosse enveloppe de 500 000 francs rwandais. 500 000 francs rwandais de l'époque, c'était beaucoup de sous. Et alors, on a tout compris. Ils sont tombés sur le magot. C'est l'interprétation que nous avons faite de cette scène.
Tassien va tenter de se réfugier avec sa famille dans un camp militaire français. Ils en seront expulsés. Grâce à une plaque de voiture zaïroise, il arrivera à passer les barrages et à se réfugier à l'hôtel des Mille Collines, propriété de la Sabena et protégé par les forces de l'ONU. Y trouver à manger et à boire est tout sauf facile. Tassien sera finalement échangé et rejoindra la zone FPR. Mais n'allons pas trop vite, nous n'en sommes qu'au début de cette histoire. Chez Donatil, dans les collines, à 50 km de Kigali, quelqu'un va avertir les Tutsis du danger qu'ils courent.
Et le prêtre était dans notre paroisse. Il venait souvent, il connaissait nos familles. Il va voir le bourgmestre pour savoir qu'est-ce qu'il en est, parce qu'il savait aussi que l'ambiance n'était pas bonne. Et donc le bourgmestre lui dit, ah, au fait, je ne peux plus rien faire pour les Tutsis. Si on veut les tuer, si on veut saccager, je ne peux plus rien faire. Et donc le prêtre, qui connaît les familles des Tutsis, il envoie ses sacristains aller dire à la famille, il faut qu'ils quittent le lieu tant que c'est possible.
La famille de Donatil va faire ses paquets et se disperser. Ça donne plus de chances de survie, estime la maman. Donatil, elle, n'a pas encore bien compris ce qui se prépare.
Moi, dans mon adolescence un peu rebelle, je me dis, mais ma mère, elle est encore devenue folle, mais je ne vois pas pourquoi ils nous tueraient. Ils s'en vont. Et moi, je reste. Je me cache dans une plantation de bananiers, un bon petit coin. Je me dis, je vais me planquer là, ça ira, ils vont revenir de toutes les façons. Et maintenant, quand j'y pense, la cachette, quand j'y suis allée, il y avait deux copines, des enfants de Hutu, Lucie et Prisca, qui étaient pas loin. Ils m'ont vu me mettre dans ma cachette.
Et c'était de ce côté-là, oui. Donc ici, il y avait un chemin qui n'existait plus. Et les haricots avaient poussé. Et c'était les bananiers vraiment épaisses. Et les enfants qui m'ont vu étaient au-dessus. Ça n'a pas changé le talus.
Je suis restée peut-être 3 heures dedans. Et là, ce jour-là, il pleut. En avril, au Rwanda, il pleut. Mais c'est des pluies, comme il peut y avoir des pluies tropicales. Je suis toute mouillée. Alors, il commence aussi à faire un peu sombre. Au Rwanda, il fait nuit trop vite. Et donc, vers 16 heures, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Notre voisin, il est gentil, je vais aller chez lui. Donc, j'y vais, je toque. Et là, il était en train de faire la bière de banane, faire un jus de banane, mettre du sorgho pour faire fermenter, quoi. Alors là, il me dit, ah, c'est toi, ah d'accord, entre. On se demandait si ta maman était partie sans laisser un enfant. Mais au fait, avant, en 59 ou en 73, c'était chaud. Souvent, il y avait des familles de Hutus qui se proposaient pour héberger les membres de la famille. Et souvent, ça créait des grandes amitiés. Alors, par après, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Genre, ils nous ont sauvés pendant que c'était chaud.
C'est donc un Hutu, Tarsis, qui va cacher la jeune Donatil. Tarsis est toujours en vie. Aujourd'hui, c'est un vieil homme. Il a 71 ans. Il vit toujours dans sa minuscule ferme carrée. Aux alentours, le paysage de collines est époustouflant de beauté et de tranquillité.
Alors, je vous présente mon village de naissance. Nous sommes à Tiesda et c'est le petit village qu'on appelle Mugatabi. C'est ici, je suis née sur cette petite colline. On va descendre, c'est un peu périlleux, donc faites attention de ne pas glisser. On a juste quelques 500 mètres à descendre. C'est le petit chemin, mais j'ai l'impression, dans mes souvenirs, qu'il n'était pas si petit. Là, c'est la plantation des bananiers. Et alors, tu as les jeunes pousses de haricots. Je sens en moi comme une sorte d'angoisse. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'angoissé d'habitude. Voici notre maison. Et là, c'est chez mon voisin, Tarsis.
Tarsis surgit de derrière la maison. Donatil le prend dans ses bras.
Ah, Tarsis. Murahoneza. Na jengutu nguye. Reka mbabwire niba gufotora bande wanze uje kwambara ishati. Sivyo? Ne prenez pas en photo. Il faut d'abord qu'il aille se mettre au moins une chemise. Oui. Parce que là il est en habit de travail. Ouais. Voilà, donc vous êtes dans une maison typique rwandais de paysans, surtout de paysans à la campagne. Inzu yawe ni amateka akomeye. Je lui dis que sa petite maison, ça fait partie de mon histoire et que c'est important. Donc elle est restée comme elle était. Ça c'est pour sécher les, ça c'est les manioc ça. À sécher après ça fait une farine.
J'y suis restée à peu près 10 jours dans cette maison là, cachée, sans sortir. On me donne à manger, je ne manque de rien. Dès le lendemain, vraiment le matin, j'entends déjà les voisins par dizaines venir déjà récolter tout près de chez nous. Nos récoltes. Ça papote, ça chantonne, vraiment de bonne humeur. Ils prennent nos récoltes comme si rien n'était. Et les jours qui ont suivi, je les entends aussi prendre les tuiles de notre maison.
Quand je vous dis que j'ai vu quand ils avaient saccagé ma maison, c'était via la petite fenêtre. J'ai ouvert, j'ai été intriguée. C'est risqué, on pouvait me voir. Et j'ai vu notre ancienne maison qu'on avait déjà désossée, enlevé la toiture et tout. Et là, j'ai eu peur. Je me suis dit, ah, mais ça rigole pas. Ça veut dire qu'on n'a plus de maison, c'est grave.
Tarsis prend d'énormes risques pour cacher Donatil. Si les voisins la trouvent, lui peut être tué. Alors, pourquoi ce Hutu décide-t-il de sauver sa petite voisine Tutsi?
Il dit qu'on était vraiment comme ses enfants, qu'il ne voulait pas qu'on nous tue. Pour lui, il ne fallait pas tuer les gens, tout simplement.
Hein?
Voilà, c'est ça. Il insiste, il dit, vous êtes comme mes enfants. Donc, voilà.
Les histoires se recoupent. D'autres rescapés Tutsi nous rapportent avoir été aidés par des voisins Hutu. Donatil n'est pas non plus la seule à tenter de se cacher dans la végétation. Brigitte va faire la même chose, avec une suite dramatique.
Je me suis retrouvée avec une de mes grandes sœurs, Claudia, dans une buisson où on va essayer de rentrer pour être couverte par des feuilles, tout simplement. On entendait les gens qui passaient, des cris parce qu'ils ont attrapé quelqu'un. C'était comme s'ils étaient en train de regarder un match de foot. Ça criait, ça... Voilà, c'est un but qui rentre, tout le monde applaudit et puis on se calme, on attend le suivant. Quoi. C'était comme si eux, ils étaient vraiment en train de jouer en tuant les gens. On dort dehors avec ma sœur et le troisième jour ou le quatrième jour, je ne sais plus, on va être attrapés. Incertainement, on entend le bruit, mais cette fois-ci, le bruit, c'est juste à côté de nous. Sortez de là, vite, vite, vite. Ma sœur sort. Moi, j'étais dans un état, un zombie. Je ne pensais pas, je n'avais pas peur, je n'avais pas la haine, je n'avais pas la tristesse. Il y en a un qui prend son bateau et sa machette. Il ouvre le buisson pour faire un chemin avec une machette. Et déjà, mais tu vas sortir, toi, ou la soroka, tiens, moi, une soroka. J'avais les cheveux coupés et un pantalon. Il pensait que j'étais un garçon. Et ma sœur qui crie, non, c'est pas un garçon, c'est ma petite sœur. Et en sortant, on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'il y avait beaucoup, beaucoup. Ils avaient été amassés, les Tutsis, partout, partout, partout. Les vieux, les jeunes. On va nous mettre en groupe. Ils nous font marcher pour aller vers une forêt qui était tout près de chez nous. On est entourés par les gens qui ont toutes sortes d'armes. les machettes, les gourdins, les couteaux, les plein de trucs d'armes avec des pointes, avec des, même des choses que je n'avais jamais vues. Et ils discutent entre eux. Et c'est là que j'apprends que mes deux frères, donc les cadets que j'avais, ont été attrapés, qu'ils ont été tués. Et ils en parlaient comme si on parlait de... Ah oui, c'est des gens qui nous connaissaient. Qui nous connaissaient parce qu'ils ont dit, mais les deux-là, vous les connaissez ? Ils disent, ah oui, oui, c'est les sœurs de ces deux-là qu'on vient de tuer. Il y en a un qui vient, qui dit aux autres, mais on a l'ordre de tuer que les hommes aujourd'hui, y compris les garçons. Parce que les femmes, si on les laisse, ils vont devenir nos femmes, ils peuvent avoir les enfants ou tout. À ce moment-là, je vois une dame qui avait au moins 5 garçons. Quand ils ont commencé à tuer tout le monde, elle est tombée par terre. Parce qu'il y avait 3 de ces garçons et ses petits-enfants. Il y en a un qui lui a dit, mais vous vous levez, vous n'allez pas mourir avant de voir que tous vos enfants sont morts. Il y a un homme qui reste dans ma tête, petit, pieds nus, en bermuda, avec une machette dans la main, un bateau de l'autre côté. Et chaque fois qu'on cognait sur quelqu'un, il sautait. Et c'est bon. Je pense que mon regard fouillait pour voir autre chose. Mais j'entendais, parce que quand on coupe les humains, il y a les os, il y a les bruits qui font le contact d'une machette avec... On entend, j'entendais, mais je ne voulais pas regarder. Je ne voulais pas voir. Il y a des fois où, dans les témoignages, on dit que nos cœurs sont leur tombe. Et je crois que c'est vrai, parce que même les gens avec qui je n'étais pas proche, qui étaient là ce jour-là, ils restent dans ma mémoire.
Ensuite, Brigitte va se retrouver à Kabgayi, Donatil aussi d'ailleurs. Les voisins de Tarsis se doutaient de quelque chose et il a fallu partir. Kabgayi, c'est un site religieux. C'est surtout l'un des lieux emblématiques du génocide. Dans les décennies précédentes, quand la violence a déjà dévasté le Rwanda, les Tutsis ont cherché refuge dans les églises. Ils espéraient y trouver des prêtres pour les défendre. Mais en 1994, Kabgayi va devenir un piège mortel pour les Tutsis réfugiés. Et le monde entier savait ce qui s'y passait.
Kabgayi, à 50 km au sud de Kigali. Ce complexe religieux est aujourd'hui transformé en refuge pour 30 000 déplacés rwandais, des rescapés des massacres. Pas assez de bâtiments ni de tentes pour s'abriter. 2 couvertures par famille, 1 repas tous les 3 jours. L'aide internationale est dérisoire par rapport aux besoins. Dans ces camps, 2/3 de Tutsis victimes encore de tueries. Et ce ne sont pas les barbelés qui peuvent les protéger.
On ne pensait pas que quelqu'un pourrait aller tuer à l'église. Donc on va à l'église, on marche toute la nuit, on arrive à l'église, c'est l'enfer. Devant l'église, il y avait un jardin, et là, c'est que des cadavres. Des cadavres partout, partout, partout.
Moi, ce qui me faisait mal, au fait, c'est que la vie avait continué. Il y avait la messe de dimanche, toujours à la basilique de Kabgayi. Et jamais on évoquait les réfugiés qui étaient là. Jamais.
On va aller voir là-bas. Donc j'arrive ici et je vois déjà les interahamwe en train de frapper les hommes Tutsis.
Ouais, donc ça, c'était l'entrée principale.
Il faut vous dire que les gens dormaient partout. Et il y avait des cacas partout. Pendant le soleil de 10 heures, les gens étaient assis ici en train de tuer les poux sur eux.
Vers la fin, on y a amené les blessés de guerre, donc les militaires qui étaient blessés sur le front. Imaginez leur amertume à côté des Tutsis. Donc là, ils se sont amusés comme des fous. Ils venaient passer les nerfs sur nous. Ils choisissaient les filles et les femmes à violer déjà. Ils choisissaient les hommes à les tuer ou à frapper, tout simplement à humilier. Et il y avait mon oncle, Édouard, qui était très grand avec barbu. Les interahamwes, il a dit « Toi, viens !» Et je le vois encore dire « Moi, si, toi, viens !» C'est le matin qu'on l'a retrouvé agonisant. Ils avaient coupé sa gorge comme ça. Et il y avait juste une sorte de bruit qui sortait, mais le bruit agonisant. Et alors la Croix-Rouge est venue les rechercher et je vois encore sa fille qui court derrière, qui pensait que non, mais je pense qu'il était presque mort.
Dans la cour de ce qui est redevenu une école, un homme, la cinquantaine, interpelle Donatil. Elle lui explique qu'elle a vécu là 2 mois comme réfugiée. il s'en souvient très bien. Mais non, 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 se récrit-il, il n'était pas là au printemps 1994. Donatil ne pousse pas l'interrogatoire plus loin. Elle nous emmène à l'arrière du bâtiment.
Voilà, ça a été condamné, mais c'était le couloir, en fait. Moi, je l'appellerais le couloir de la mort. J'ai vu vraiment les familles mourir ici de faim. Un homme qui n'habitait pas loin de chez nous et sa femme, je les ai vus mourir ici de faim. Plusieurs jours d'affilée, ça c'est dur. Même si on était petits, on passait le matin. Ils n'étaient pas morts, mais ils étaient très faibles. Ils essayaient de sortir, ils étaient couchés sur le brancard. Et ils essayaient de ramper, mais c'était trop dur, ils n'avaient plus de force. Je les ai vus, et quand on meurt de faim, franchement, c'était dur. C'était la première fois que je voyais quelqu'un mourir de faim. La Croix-Rouge est venue laisser courir avec un peu de lait. On leur mettait de lait dans la bouche. Mais ça sortait de l'autre côté, au fait. Tellement, à mon avis, la gorge était serrée. Je n'ai jamais pleuré pendant que je donnais le témoignage, mais je suis désolée.
Notre dernier témoin, Jean Bosco, était lui aussi à Cap-Gaï. Pas exactement au même endroit que Brigitte et Donatil.
Jean Bosco Prudakema, j'ai 46 ans, je suis Tutsi. Moi, je parle des députés séminaires parce que j'étais là. C'est plus ou moins vers le mois de mai que les génocidaires, ils amènent des voitures, des camionnettes, des minibus pour arriver les Tutsi à les tuer. Je vois les militaires armés qui viennent. Ils savaient bien où dormir les Tutsi. Ils entrent parce que ce n'était pas fermé. Déjà, le portail principal du petit séminaire, c'était gardé par les policiers Hutus qui détestaient les Tutsi. Donc, on savait dire ce que ça veut dire. Ils entraient comme ils veulent. Personne parmi nous n'était armé. Non. On était comme des motos qui attendaient la mort. On avait des matelas qu'on mettait par terre. On dormait sur les matelas. Quand les militaires arrivaient, c'était surtout pendant la nuit. Je vois l'éclairage qui est allumé dans mon sommeil, je sursaute. Et je vois déjà les gens qui font la file. Les militaires faisaient la sélection parmi les réfugiés. Ses cibles principales étaient les hommes. C'est ce qui m'a sauvé parce que moi, j'étais encore un enfant. Les garçons qui étaient plus âgés que moi, ce soir-là, ils sont tous partis à la mort. Tous. On n'avait pas d'autre choix. On était sans défense. Qu'est-ce qu'on allait faire? Peut-être on pouvait se battre, mais se battre à pied, avec les mains, avec les militaires qui sont armés, c'était un suicide. Il y avait aussi un désespoir. La plupart des Tutsis, à cette époque-là, ils étaient déjà morts dans la tête. Ils ne sentaient pas la force de se battre. Pendant la nuit, les militaires te disaient « debout, tu te mets avec les autres dans la file ». Entre les lits où on dormait. Et puis, ils les faisaient sortir pour les amener dans les bus et les amener les tuer ailleurs. J'ai vu les bus et les camionnettes dans lesquelles on mettait les gens pour les tuer. Ça, je l'ai vu. Mon papa était embarqué comme ça. Vers, je pense, 17h, mon père était allé à la messe. Et après la messe, les inhérents accompagnés des militaires on venait chercher les gens à l'église. Comme j'avais peur depuis longtemps et comme je connaissais bien les lieux, quand je voyais que les inhérents commençaient à venir chercher les gens, il y avait un endroit où j'allais me cacher. C'est une sorte de niche pour chiens qui était entre les dortoirs et le réfectoire. Moi et deux de mes amis, on allait se cacher là-bas. Donc, quand on est venu chercher mon père et les autres ce jour-là, j'ai vu les voitures. Quand ils ont commencé à amener les gens, moi je suis vite couru aller me cacher. Et c'est après, quand ces camionnettes sont parties, qu'on m'a dit qu'on a pris mon père aussi, que mon père est parti. On disait qu'ils ont amené dans la province de Gisenyi pour aller les massacrer là-bas, mais on ne sait pas exactement où mon père a été tué.
Dans la campagne, même aux alentours de Kigali, tout est cultivé. Les paysannes travaillent leurs champs à la main et à la houe. Nous nous arrêtons au bord de la route. Une vingtaine de jeunes Hutus écorcent des cannes à sucre qu'ils croquent comme vous le feriez d'une carotte crue. Ils utilisent pour ce travail un grand couteau. Ce couteau est sans aucun doute possible une vieille machette qui a rétréci au fil des aiguisages successifs. Cette machette existait-elle déjà il y a 30 ans? A-t-elle coupé autre chose que des cannes à sucre? Mais ces jeunes paysans, qu'en savent-ils? Aucun d'entre eux n'était né au moment du génocide. La catastrophe nationale rwandaise est pourtant bien inscrite dans le paysage. À 1 kilomètre de là, un mémorial rend hommage aux victimes. Un jardin pente, une croix et quelques mots pour se souvenir.
J'ai perdu mon papa, Kagawo Antoine, ma maman, Kamundu Mélanie, ça c'est en 94. J'ai perdu aussi mes deux grands frères, Emmanuel, Athanase, les épouses, Drossel, Dorothée et leurs enfants, ces deux jeunes familles éteintes. J'ai perdu un petit frère et une sœur cadette. Et alors, mes amis, des ingénieurs comme moi, des juristes, je pense notamment au juriste Alphonse Rugambwa, surnommé Gatema, son épouse Nyiramatama. C'est une famille éteinte. Kagambirwa Weral, c'est son épouse et leurs trois enfants. Famille éteinte. Batsinduka Arsterk, c'était un ingénieur civil. Rwamucyo Eugène, également un ingénieur civil. Gassana Gaspar, un ingénieur agronome comme moi. Famille éteinte. Bakundu Kizé Tarsis, ingénieur agronome comme moi. Il y a Constantin Chouahiro, c'est un de mes meilleurs amis et son ami, mon autre ami, la Ganera François. Il y a des Sifers, une famille presque éteinte. Il y a le Waïtare, Augustin, son épouse et les enfants ont survécu. Ce sont les personnes avec qui, après le boulot, on se retrouve ensemble. Vous vous organisez pour vous marier, à qui tu présentes la personne de ton cœur, et personne n'est en vie.
Mon mari, il le sait, des fois je sursaute dans mon lit, il doit me calmer. Moi, j'ai vraiment des rêves, des fois je suis là, je suis en train de me cacher, C'est un truc qui arrive à tous les rescapés.
Je connaissais des gens qui, dont l'avenir était prometteuse, mais qui sont déjà partis. Et c'est triste.
Fâché contre le génocide, oui. On a démontré à qui veut connaître qui nous sommes qu'on n'est pas fameux là. Les Rwandais ont prouvé qu'ils sont mauvais.
Parfois, je me pose des questions pour savoir. Pourquoi c'est moi qui est toujours là? Je sens que j'ai un devoir envers eux, envers moi-même aussi, de raconter ça, de dire au monde, à la société, ce qui s'est passé. Ça pourrait aider dans l'avenir. Je ne pourrais pas me venger, je ne pourrais pas faire ce qu'ils ont fait.
Quand c'est arrivé en 94, on était des adolescentes, on était encore des enfants. Aujourd'hui, on est devenus des mères de famille. On est prêtes à parler, raconter ce qui nous est arrivé.
Que ce soit moi, que ce soit même les autres rescapés, on a gagné parce qu'on est toujours en vie. On s'est reconstruit, on a des enfants.
30 ans après, on est encore là. J'ai réussi à avoir un métier, à des enfants, à avoir une famille, à avoir des amis, à reconstruire la vie. Si on me croise dans la rue, on ne va pas dire elle, c'est une rescapée. On a cette capacité de jongler entre la vie qu'on a connue et la vie qu'on vit ici, qui est une vie normale. La force que j'ai de pouvoir faire ce que je fais vient de là, vient du fait que je viens de loin et donc je dois aller loin.
Extrait d'un morceau de Suzanne Miraniami-Bois pour refermer ce reportage de François Brébant avec Julien Bader. Je vous signale qu'avant de devenir un reportage pour Transversal, Donatil, Brigitte, Tassien et Jean Bosco ont raconté leurs histoires à l'historien Bernard Wilquin et il en a fait un livre avec Donatil Karourenzi. Son titre « Un génocide en héritage », c'est un ouvrage paru aux éditions Luc Pire.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.